Vous écoutez
RMC.
RMC.
Tu peux te rattraper.
Défaite en J1 sur une équipe à 10 qui s'est recroquée.
Exactement. Pour le coup, tu mets dans mon moulin.
Fabrice, autre chose à rajouter ?
Non. Je suis arbitre officiel, donc justement à l'after, je trouve que ça manque un peu d'expertise arbitrale. Vous parlez un peu des règles, elles sont pas vraiment maîtrisées des fois.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Bonsoir à toutes et à tous, Génération After comme tous les soirs, RMC 20h-22h, à la radio, à la télé, vous le savez, sur After Foot TV et en direct sur la chaîne YouTube de l'After. Le chat est ouvert, vos commentaires, vous connaissez le chemin. Avec ce soir, Elton Mokolo, salut Elton.
Bonsoir Nico, bonsoir à tous.
Qui frétille à quoi maintenant, une semaine du mondial?
Exactement, là je suis dans ma Coupe du Monde.
6 jours.
Exactement,
6
jours. Je suis prêt.
Quel est le premier match que tu attends, le plus important là? Bon, toi on sait, hein, c'est la RDC, mais avant ça, ton petit biscuit Brésil-Maroc.
Il y a Brésil-Maroc, il y a aussi le Côte d'Ivoire-Équateur qui m'intéresse énormément. Sûr. C'est deux outsiders qui sont très intéressants.
Fabrice Hawkins, c'est là également. Salut Fabrice.
Salut à tous.
Qui sera avec l'équipe de France. Voilà, lui, son actualité, ce sera la côte Est,
le blanc-rouge.
Boston, New York, Philadelphie, c'est ça?
Exactement, peut-être Dallas.
Peut-être Dallas. Oui, t'as raison, c'est ça, quoi. Parce que si ils font premier du groupe,
ils jouent le 16e à New York.
Il reste, voilà, c'est ça.
Et c'est là où il est fort, il a déjà tout prévu. Il a déjà la marque.
Tout le monde le sait, calme-toi, enfin, doucement.
Non, moi je ne savais pas.
C'est pas une info exclusive du Faucon.
Tout le monde connaît
le planning éventuel de l'équipe de France. Et événement ce soir dans Génération After, nous accueillons la nouvelle voix de l'After, sa première ce soir. Il est avec nous, Adem Djouadi. Salut Adem.
Bonsoir à tous.
Salut Adem, bienvenue. On est très heureux de t'accueillir dans la bande de l'After, la famille de l'After, Génération l'After.
Merci les gars, très très content d'être là, passer de l'autre côté, ça fait vraiment plaisir. Maintenant, faut y rester.
Exactement, le plus dur commence. On t'a mis deux lames aiguisées ce soir, Fabrice et Elton. Ça aurait pu être pire. Tu aurais pu prendre Walid plein fer pour ta première dans l'After.
Ça ne serait tardé.
Ou Daniel.
Ça ne serait tardé.
Mardi soir, ce sera le cas.
Ouais, mardi soir.
Voilà, je rappelle que tu as participé à la grande aventure, nouvelle voix de l'After, 3500 candidats. Et tu as été l'heureux élu après quart de finale, demi-finale.
Une vidéo envoyée. Ça a duré plus de deux mois.
Exactement.
3500, c'est un concours de grande école.
Tu nous as. Ah oui, carrément. Tu nous as convaincus. Maintenant, j'espère qu'on a raison de te faire confiance.
Bien sûr,
ça commence maintenant. T'es avec nous pendant les deuxièmes matchs dans Génération After. Je salue aussi les trois finalistes qui nous écoutent peut-être, Laszlo, Rota et Charles. Et je précise également que le dernier épisode de la finale est en ligne sur YouTube et sur Spotify pour l'audio et sur la plateforme RMC Sport. Depuis 18h, allez-y, la version montée sur 40 minutes avec les coulisses, Daniel, Gilbert, en régie notamment. Allez-y, c'est en ligne depuis 18h.
Au passage, Nico,
ouais.
La tenue. Pas mal.
Ah bien, on est d'accord,
ouais,
tu valides.
Ouais,
le costume en lin vert, ça va,
c'est magnifique. J'aime bien la couleur.
Merci, j'ai pas compris les critiques. Alors ce soir dans Génération After, on va évoquer la défaite de l'équipe de France contre la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'elle remet en cause le nouveau système Deschamps avec ses quatre attaquants devant, ce 4-2-3-1? On va parler, c'est le grand débat du jour, de Ryan Cherki, meilleur bleu hier pour beaucoup. Doit-il être plus qu'un joker sur ce mondial? Est-ce que Deschamps osera franchir le pas? Avi Delton également. Attention, il s'expose, j'ai peur de la Mbappé dépendance. Tu parles de but, tu parles d'efficacité. 21h, Fabrice, tu viens aussi avec tes infos PSG. Quel mercato pour Paris? On parlera notamment de l'avenir de Bradley Barcola, des jeunes parisiens, Kanginli notamment aussi, Gonçalo Ramos au programme. Et puis, Florentino Pérez annonce un joueur à 150 millions d'euros au Real s'il est réélu. Quoi qu'il arrive, de qui parle-t-il? Michael Olise? Certainement, dit la presse espagnole. Et puis on évoquera également son concurrent, le candidat Enrique Riquelme, qui annonce lui carrément Haaland et Rodri en cas d'élection. Si je suis élu, ils arriveront au Real. C'est un délire. On va raconter ça parce que c'est un cirque absolu. C'est plus fort encore qu'une élection américaine. On sera avec Thibaut Leplat, notre ami afterien en direct de Madrid. Et puis à 22h, l'after avec Karine Galli. Salut Karine.
Salut.
À le micro, s'il vous plaît.
C'est pas le bon. Vas-y. Salut tout le monde, je suis très perturbée parce que notre nouvelle voix de l'after, c'est le sosie de Hissam Chebak. Je sais pas si vous vous souvenez de lui.
Qui ça?
Hissam Chebak était un latéral droit, notamment au Havre. C'est des années Ligue 2, mes meilleures années.
On va regarder.
Et bien tu ressembles.
Alors attention, on va vérifier.
Il y a un truc.
Il y a quelque chose.
On va voir.
Il y a un truc.
Je vais regarder ça.
C'est un très bon arrière droit qui est toujours en activité d'ailleurs.
J'ai une meilleure coupe de cheveux quand même.
Il en a fait plusieurs.
Sur la photo,
il y a un truc.
Fabrice, tu valides ou pas?
Franchement,
ouais.
Oui.
Ouais. Quel cassé. Voilà. Il joue en Turquie maintenant. Donc,
il joue dans quel club?
Comment?
Dans quel club en Turquie?
En Turquie. Alors là, je t'avoue, moi, je l'ai connu au Havre. Je sais qu'il est en Turquie. J'ai pas toutes les infos là sur le bout des doigts, mais je pense que Fabrice, qui est en train de regarder, va pouvoir nous dire ça dans quelques secondes. Sinon, tu veux peut-être le programme de soir. Magnifique. Eh bien, nous allons avoir un invité. C'est Saïd Chaban, le boss évidemment du SCO d'Angers. Pourquoi? Parce que Angers dans l'actualité. Il y a évidemment le départ de Dujeu. Il va nous dire qui est dans la shortlist pour remplacer Dujeu. On va parler également du choix du gardien, parce que tu le sais, ils n'ont pas pu garder Kofi. Il coûtait beaucoup trop cher. Lens est gourmand. C'est normal, c'était l'un des tout meilleurs gardiens de cette saison. Et donc, c'est Anthony Lopez qui sera dans les cages. On va parler avec lui aussi de la situation du foot français. Plus petit budget de Ligue 1, et pourtant, ils font du super travail. On reviendra aussi sur les Bleus, bien évidemment, parce que Deschamps, la défaite plus l'excès de confiance, il déteste. Donc, est-ce qu'il va faire des changements? Et puis, par rapport à ces changements aussi d'entraîneur, il y a une valse incroyable. Est-ce que ça vous plaît? Qui vous avez envie de voir dans quel club? Parce qu'il y a encore beaucoup de postes à pourvoir. Et puis, on sera également avec Julien Laurence, J-1 avant le match contre l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande. Et on sait que Thomas Tuchel est un petit peu sur le grill parce qu'il a fait des choix dans sa sélection. Donc, il a intérêt de faire une très bonne Coupe du Monde. Voilà
l'after
pour le programme.
Avec Karine Galli des 22h, soyez au rendez-vous comme tous les soirs jusqu'à minuit. À tout à l'heure, Karine. C'est à parti pour Génération After. Alors, c'est bien d'avoir Fabrice ce soir, lendemain de match. T'étais à la Beaujoire hier, Fabrice. Alors, globalement, est-ce que cette défaite draine quelques inquiétudes chez vous qui nous écoutez? 32-16 ouvert, vous le savez. Venez en parler avec nous. Fabrice, est-ce que elle a chatouillé un peu le staff technique et les joueurs de l'équipe de France, cette défaite à moins de 10 jours, à un peu plus de 10 jours de l'entrée en lice de l'équipe de France?
On les a entendus, hein, que ce soit les joueurs, que ce soit le staff et notamment Didier Deschamps. Forcément, ça n'a pas fait plaisir. Après, est-ce que ça a catastrophé les joueurs et le staff? Non, mais c'est une piqûre de rappel quand même. C'est pas vrai de dire qu'ils s'en foutent, par exemple. C'est des choses que j'ai entendues. Ils n'en ont rien à faire. C'est qu'un match amical. Non, parce que Didier Deschamps, avant une grande compétition, depuis qu'il est à la tête de l'équipe de France, il n'avait jamais perdu un match amical. Et surtout ce match-là, à la maison, à la Beaujoire, là où il a été formé à Nantes, il aurait aimé avoir une meilleure sortie. Et bah, force est de constater que ça n'a pas été le cas. Et ils espèrent, en tout cas, sur ce match contre l'Irlande du Nord, montrer un bien meilleur visage et surtout gagner. Parce que même si ce sont des matchs amicaux, pour la confiance, ça compte toujours.
Turnover lundi soir ou là il part sur une équipe type?
Il va partir sur une équipe qui se rapproche beaucoup plus de celle qui va jouer le 16 juin prochain contre le Sénégal.
Les Parisiens devraient démarrer, Doué, Dembélé.
A priori, moi en tout cas les infos que j'ai encore une fois, c'est que autant, et c'était prévu bien en avance, enfin on en parlait même avec Jean-Louis avec qui j'ai commenté le match sur cette rencontre, ils voulaient faire tourner, voir le plus de joueurs possible, gérer les temps de jeu aussi par rapport à ceux qui ont joué plus ou moins sur les dernières rencontres. Autant sur ce match face à l'Irlande du Nord lundi prochain, il va mettre une équipe qui se rapproche vraiment de celle qu'il veut voir jouer sur les premiers matchs de Coupe du Monde.
Alors c'est intéressant, il va certainement aligner encore une fois ce système, ce 4-2-3-1 avec 3-4 éléments offensifs. C'est pas le nouveau Deschamps, ça fait quelques mois qu'il le met en place tout de même. La grande question, c'est est-ce qu'il va tenir pendant ce mondial? Il a souvent rétro-pédalé au fur et à mesure d'une compétition, d'un Euro, d'une Coupe du Monde. Est-ce que cette défaite, eh bien, doit changer la réflexion de Deschamps avec ses quatre attaquants? Elton, qu'est-ce que t'en penses, toi?
Non, on doit continuer là-dessus parce qu'on est dans un travail, on est dans un laboratoire du côté de Didier Deschamps. Et plus globalement, j'en ai assez. Ouais, j'en ai assez que, en fait, chaque défaite, chaque contre-performance, et il n'y en a pas eu très souvent du côté de l'équipe de France, soit un prétexte pour s'attaquer au système en ne regardant pas le contexte de la rencontre. Le contexte de la rencontre, c'est une équipe de France qui, en première période, avec l'équipe de France des quatre attaquants, a été plutôt convaincante. Il y a eu des occasions. Fofana a été le meilleur Ivoirien et c'était le gardien. Et en seconde période, il y a eu une érosion dans le jeu de l'équipe de France, mais c'est pas à cause des quatre attaquants. Et je vais même te dire quelque chose. Nous, on a un aspect qui est un peu nombriliste. C'est-à-dire, on ne regarde que nous-mêmes. Mais en deuxième période, que fait la Côte d'Ivoire? Ils arrivent aussi avec quatre attaquants et ils retournent le match de cette manière-là. Donc, manière de dire quoi? Est-ce que c'est le système qui est à remettre en cause? Je n'en suis pas persuadé. C'est surtout les interprètes et ce qu'ils font de la rencontre qui est beaucoup plus à remettre en cause.
Adem, qu'est-ce que
t'en penses? Non, pour moi, il faut pas donner plus d'importance que ce match n'en avait. C'était un premier match de préparation. C'est fait pour se préparer. Donc, si l'équipe de France n'est pas encore à point, pas encore à maturité, pas encore en pleine confiance, surtout que comme l'a très bien dit Fabrice, les Parisiens n'étaient pas là. Ils vont être là mardi prochain. Donc, je pense qu'il faut surtout pas tirer de conclusions hâtives. Maintenant, moi, j'en ai un peu marre qu'on fasse le procès de ce 4-2-3-1 qu'on a tant réclamé pendant tant d'années. Maintenant qu'on l'a, que Didier Deschamps a enfin changé ses idées, on veut le changer à tous les matchs. On veut revenir au 4-3-3.
Si, on a besoin de se poser des questions quand même.
Mais amis, on anticipe le fait qu'il va changer, que dès que ça va mal
sur le déséquilibre potentiel possible.
J'ai l'impression qu'on est impatient que ça se passe mal en poule pour repasser à un 4-3-3 avec trois milieux de terrain travailleurs. Non, moi j'ai envie qu'on aille au bout dans cette Coupe du Monde, qu'on soit vainqueur ou qu'on sorte en barrage avec ces quatre attaquants, avec cette idée. Et je pense que Deschamps, de toute façon, mourra avec cette idée.
Moi, Nico, encore une fois, j'aime pas ce lien de cause à effet. En gros, on perd, c'est parce qu'il y a les quatre attaquants. Non, le match s'explique d'une autre manière, à savoir que pour moi, il y a un standard technique qui a été trop décevant par moment, notamment sur la seconde période. Les latéraux qui n'ont pas été forcément performants, et ça, c'est pas le seul fait des quatre attaquants. C'est tout un système au global à repenser, enfin tout du moins sur cette rencontre.
Alors, en revanche, il y a un phénomène intéressant, encore une fois, énorme permutation sur le front de l'attaque, Fabrice, avec un Marcus Thuram qui a passé à peu près la moitié de sa première période en neuf, quasiment,
en numéro 9,
avec un Mbappé qui tournait autour, surtout côté gauche, ce que beaucoup réclament, d'avoir un Mbappé sur un côté, ou là où il serait plus efficace, dans une position plus naturelle. Est-ce que ça... Bon, je pense que Deschamps leur donne une liberté, Fabrice. On est d'accord.
Totalement, et la même qui conférence de presse. Totalement. Que ce soit Mbappé, celui qui joue à gauche, ou alors le numéro 10 qui sera sans doute Michael Olise avec Ousmane Dembélé.
Donc ça veut dire que le débat qu'on a longtemps fait, Mbappé n'est pas un neuf, Mbappé ne doit pas jouer en neuf, n'existe plus réellement. Désormais, c'est beaucoup plus complexe, nuancé que ça. C'est-à-dire que.
Ouais, exactement. C'est beaucoup plus complexe. Et on l'a vu d'ailleurs sur le match contre le Brésil, souvenez-vous, au mois de mars, où Hugo Ekitike jouait dans cette position-là, à gauche, et il permutait souvent avec Kylian Mbappé pour se retrouver en numéro 9, ce qui laissait le couloir à Mbappé. D'ailleurs, je pense que si Kitike n'était pas blessé, c'est lui qui aurait été titulaire. Mais c'est vrai que je pense que ce débat va moins se poser. Et après, vous savez comment ça se passe. C'est-à-dire que si ça gagne, ce sera formidable. Si ça perd, on va se dire, mais est-ce que le fait que Kylian Mbappé dézone et à chaque fois reprenne le couloir, est-ce que ça déséquilibre pas et il met un petit peu plus de temps, Marcus Thuram, peut-être à se replacer pour défendre, et on va forcément chercher la petite bête si jamais ça se passe mal.
Mais moi, je vais aller encore plus loin, Nico. Moi, on parle de permutation. Donc, il y a 50% du temps où quand même Kylian Mbappé, grosso modo, dans l'axe. Moi, je voudrais qu'il soit à 100% du temps sur son couloir gauche, là où il est le meilleur, le plus percutant, le plus dangereux. Parce que quand il est dans l'axe, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de moments où il parasite l'axe, où il décroche sans vraiment amener de défenseur avec lui, où il ne crée pas grand chose. Moi, j'aimerais qu'on prenne le parti de se dire Kylian Mbappé, là où il est le meilleur, c'est à gauche. Tu portes le maillot de l'équipe de France, donc tu dois courir pour l'équipe de France. Je ne comprends pas pourquoi on s'adapte au joueur.
Tu crois encore, Adem, à ça, franchement, il va avoir 28 ans cette année, tu penses qu'il va faire les efforts défensifs?
Moi, je refuse de me plier à l'idée que les joueurs sont au-dessus du blason et que Kylian Mbappé, Michael Olise ou Dembélé ne peut pas courir pour défendre et gagner une troisième.
Encore une fois, j'ai l'impression que Kylian Mbappé, on le regarde avec les yeux de 2022, mais on est en 2026. Encore une fois, sa réalité d'ailier gauche n'existe plus. Aujourd'hui, c'est un joueur qui est beaucoup plus dans l'idée d'emprunter des zones davantage axiales, d'être un joueur qui se veut, qui a évolué avec le temps et qui, en ce sens, évolue en tant que tel. Moi, hier, par exemple, j'ai beaucoup aimé sa prestation. Enfin, j'ai aimé notamment Kylian Mbappé qui était capable d'emprunter plusieurs zones. Il y a eu cette complicité avec Ryan Cherki que j'ai bien aimé. L'enfermer dans ce côté gauche aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit profitable et à Kylian Mbappé et à l'équipe de France.
Moi, la question qui m'intéresse, c'est est-ce que quelque part, ce qu'on a vu hier peut offrir une chance presque inespérée à Marcus Thuram dans ce système-là, Fabrice? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, est-ce qu'il peut incarner une sorte de pivot un peu flottant, certes, non, mais pivot quand même, avec Mbappé autour?
Ta question est très intéressante parce que, encore une fois, c'est, je pense aussi, la logique qui a amené Didier Deschamps à titulariser Hugo Ekitike sur le couloir à gauche, c'est qu'il se dit... Quand il n'y est pas, il est devant. Donc c'est intéressant parce que j'ai un attaquant de métier dans la surface de préparation. Oui. Mais je pense que sur les très gros matchs, quand ils vont arriver en huitième, quand ils vont arriver en quart, en demi, on l'espère, je pense que de toute façon, Kylian Mbappé va se retrouver dans une position axiale parce que à gauche, qu'on le veuille ou non, il faut faire des replis défensifs et des vrais replis défensifs. Il faut défendre pour de vrai, sans rigoler. Et il n'est pas pour l'instant en mesure, en capacité de le faire, Kylian Mbappé. Donc on l'a vu, quand il porte le maillot de l'équipe de France, de temps en temps, on le voit. Et de plus en plus, j'ai envie de dire, depuis le début de la saison, il défend, il fait le petit pas qu'il faisait peut-être pas avant. Donc ça, je trouve que c'est vachement positif. C'est vrai. Mais vraiment.
Et le petit pas qu'il faisait pas avant.
C'est la réalité. Mais défendre à fond.
C'est pas dans son ADN. Les gars, quand même. Moi, je comprends pas qu'on soit là aujourd'hui à se demander, qui va courir pour Kylian Mbappé? On voit bien qu'aujourd'hui, les équipes qui gagnent, ce sont des équipes où le collectif est au centre de tout, où il n'y a plus ces superstars. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est passé de mode.
Adem, t'as vu en 2022, d'accord avec toi. Messi, champion du monde, en
2022,
6 km par match,
Nico, c'est passé de mode.
Il y a 4 ans, c'est déjà le même football, non?
T'en avais 10 qui couraient pour Messi. Je pense pas qu'aujourd'hui, les joueurs de l'équipe de France, quand tu as un ballon d'or, un Michael Olise, des joueurs comme ça, avec cet égo-là, qui aujourd'hui sont sûrement plus légitimes sportivement que Kylian Mbappé, veuillent courir pour lui. Je ne pense pas.
Mais aujourd'hui, Kylian Mbappé.
Attends, plus légitimes sportivement, c'est intéressant.
Sur les deux dernières saisons, en club en tout cas, sportivement,
la légitimité de la. Oui, mais en club.
Tu penses vraiment que Michael Olise et Ousmane Dembélé, quand rentrent chez eux le soir, ils vont se dire demain je vais courir pour Kylian Mbappé.
Non, je pense pas qu'ils réfléchissent comme ça. Je pense pas qu'ils réfléchissent comme ça, mais de la même manière, ils se disent pas Kylian Mbappé n'a pas de légitimité en équipe de France.
C'est, non, c'est leur capitaine. Non.
Il a été depuis qu'il est en équipe de France et notamment sur les grosses compétitions et de surcroît en Coupe du Monde, Kylian Mbappé, on sait ce qu'il a été pour l'équipe de France et de toute façon dans les consciences, il le reste toujours un petit peu, même quand on échange avec les joueurs de l'équipe de France, personne lui fait allégeance. Et là, tu as tout à fait raison, hein, Adem.
Ça c'est intéressant.
Par contre, ils savent qu'ils ont plus de chances de gagner qu'avec lui parce que c'est leur réalité.
Avec lui.
En conférence de presse, dès que Dembélé peut rappeler qu'il faut courir pour l'équipe, dès que tu vois qu'un joueur en interview, il lui met une petite piqûre de rappel. Il y a des messages subliminaux qui sont passés de semaine après semaine pour lui expliquer si on veut la gagner avec toi, il va falloir que tu cours quand même.
Bien sûr, mais de toute façon, la réalité de Kylian Mbappé, ça va être toujours la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'équipe de France gagne, qui court pas, ça va pas être un débat. En revanche, si effectivement il fait beaucoup moins que les autres et que l'équipe de France perd, là ça va devenir un problème et ça l'a été en 2024.
Après, attention à ne pas s'enfermer notamment autour du sujet de Kylian Mbappé parce que factuellement, la seconde période, Kylian Mbappé n'est pas là. Et c'est précisément là où l'équipe de France chute footballistiquement. Je veux dire, il y a eu des remplaçants comme Mateta, Marcus Thuram était encore aligné, Kylian Mbappé était sur le banc de touche. Et c'est précisément là où l'équipe de France a été moins forte. Et précisément là où la Côte d'Ivoire a été supérieure. Donc ce que je veux dire par là, c'est encore une fois, il faut avoir une perspective collective. Comment l'équipe de France attaque? Ça, c'est ce qui m'intéresse. On a la volonté d'avoir une équipe qui est liquide, une équipe qui est fluide, une équipe où il y a beaucoup de permutations, de rotations. Il faut avoir les moyens de ses ambitions avec les meilleurs interprètes. Est-ce qu'on a les meilleurs interprètes à l'instant T? Telle est la question.
Bon, la mi-temps se passe moins bien que la première parce qu'il y a 5 remplacements dès la mi-temps. Il y en a 10 au total.
Enfin, Nico,
Parce que Emers Faye réajuste, ouais. Il a fait des choix.
Bah oui.
Très critiqué, je peux vous le dire, en Côte d'Ivoire, notamment ce duo Kessié Fofana. Il a mis de la créativité en deuxième période avec Christina Olaï notamment, avec ton micro aussi. Pourquoi pas?
Nicolas Pépé a pas dit allô,
exactement,
pardon.
C'est ce que tout le peuple réclame. On parlera de la Côte d'Ivoire. Hein,
mais c'est ajusté aussi, hein, juste petite parenthèse. Mais lui aussi, il a fait en fonction des états de forme, de ceux qui avaient plus ou moins joué sur les derniers jours, pour échanger avec certains joueurs, même de la Côte d'Ivoire après le match. Ils sont conscients de ça. Hein, c'est pas l'équipe type qui a démarré. Ils le savent très bien du côté de la Côte d'Ivoire.